Je crois vraiment avoir le succès des écolabels, du commerce équitable, de l'utilisation des transports en commun, même de la bicyclette dans les grandes villes, du souci quand on construit un logement ou on achète un appartement, des conditions du chauffage. Je crois vraiment que les Français sont prêts à un changement de leurs habitudes. Sont-ils prêts à un grand changement? Non. Et en particulier, ça se voit lorsque l'on évoque les questions de fiscalité, le prix qu'il faudrait désormais payer l'énergie. Visiblement, on n'est pas prêt à un changement aussi radical que semblent pourtant le préconiser ceux qui connaissent bien le sujet.
Alors justement, quelle est l'ampleur du changement? Que faudrait-il faire?
Ce qu'il faudrait faire va très loin. Et on le fera d'ailleurs, mais ça prendra peut-être quelques décennies. Et en particulier, c'est par exemple reconsidérer complètement le rôle des transports dans l'organisation de la production aujourd'hui. Et reconsidérer le transport aussi bien au plan urbain, c'est-à-dire concevoir des villes et des campagnes qui demandent moins de déplacements individuels que ce n'est le cas aujourd'hui, et concevoir aussi une organisation de la production qui soit peut-être moins éclatée qu'elle n'est aujourd'hui, grâce à... elle est éclatée, la division du travail n'a cette intensité que parce que le prix des transports ne prend pas en compte son impact énergétique.
Mais alors, vivre autrement, est-ce que c'est possible pour tout le monde ou c'est réservé juste à une élite sociale ou économique?
Le vivre autrement s'impose plutôt qu'il n'est choisi, ça qu'elle a l'ambiguïté, à des catégories de population relativement défavorisées. Vivre autrement, ça s'impose par exemple aux agriculteurs qui doivent renoncer à certaines formes de culture ou aux pêcheurs qui devront renoncer à des campagnes de pêche. La question fondamentale, c'est comment on va partager le fardeau de changement de vie et de changement d'activité économique qui va être imposé d'abord à certaines catégories de population. Qu'il y a dans la question du développement durable un enjeu de solidarité avec les secteurs d'activité et les populations, souvent les moins favorisées, qui vont devoir s'orienter dans d'autres directions. Il y a un problème de restructuration des activités qui, comme toute restructuration, pèse souvent sur les moins qualifiés.
Peut-on imaginer aujourd'hui revenir à une relation homme-nature plus évidente, un peu comme dans le récit de la création finalement?
Non seulement on peut l'imaginer, mais je dirais c'est une opportunité majeure qui se présente à nous. L'homme est en quelque sorte le bon gardien, le jardinier. Il a une responsabilité qui lui est propre pour permettre à cette nature de se développer selon sa vocation. Non pas la conserver dans l'État, mais lui permettre, elle aussi, d'évoluer d'une façon qui soit équilibrée et harmonieuse. C'est une perspective extrêmement créatrice que celle qu'ouvre la tradition chrétienne, qui apporte des réponses à beaucoup d'interrogations. La perspective chrétienne est une perspective qui reste active. L'homme serviteur, enfin, un maître serviteur de la nature, qui n'est ni dominateur, ni en quelque sorte fusionner avec la nature.
Et alors justement, comment peut-on refaire ce lien?
Prenons la pollution de l'eau. Les pays en développement, c'est là qu'elle est la plus grave, il faut certainement faire des investissements très coûteux et demander à certains exploitants agricoles de renoncer à certains modes de production. Cela coûte de l'argent. Il va falloir une intervention publique, il va falloir de la solidarité. Donc la tradition chrétienne invite à voir le développement durable comme un enjeu de solidarité avec ceux qui auront le plus d'efforts à faire pour que la nature soit de nouveau harmonieuse pour le bien de tous.